Bienvenue sur l'émission Constellations, qui se propose d'explorer en votre compagnie les arcanes stellaires et diamantins où nous conduit la poésie de tout temps et de tout lieu. Bonjour, vous êtes bien à l'écoute de l'émission Constellations. Voici donc un second volet consacré à l'écrivain italien Cesare Pavese. Comme je l'ai précisé dans le cadre du premier, j'ai bouleversé l'ordre chronologique en évoquant d'abord la section qui porte le titre « La morte verrà e avrà i tuoi occhi », groupe de poèmes contemporains de la mort de leur créateur. Aujourd'hui, c'est le grand recueil « Lavorare stanca », « Travailler fatigue », dont on découvrira des extraits. L'originalité de cet ensemble tient à deux facteurs principaux, sa forme et son ambition. Sa forme. Pavese crée véritablement un vers très spécifique. En effet, le vers pavésien comporte 13 syllabes et 4 accents en s'appuyant sur un rythme ternaire anapestique. Je rappelle que l'anapeste est constitué de 2 syllabes brèves suivies d'une syllabe longue. Par exemple, si on prend le vers « Camminiamo una sera sul fianco di un colle », j'ai, à dessein, marqué avec force les 4 accents principaux. Si l'on considère alors que le vers italien le plus fréquent est un endécasyllabe, un vers de 11 syllabes, l'entreprise métrique et musicale de Pavese, avec des vers de 13 syllabes, est entièrement singulière. Autant dire que la cadence qu'il choisit se veut presque toujours identique, monotone et même lancinante. Le traducteur, Gilles Devant, soulignera alors les difficultés de la traduction, puisque un vers français comme l'alexandrin, qui serait peut-être le plus proche intentionnellement du vers pavésien, un vers donc comme l'alexandrin a une histoire propre, un ancrage classique et racinien qui interdisent son usage pour la reproduction des vers de Pavese. Aussi ferai-je entendre des lectures en italien de certains des poèmes retenus. Pour ce qui est de l'ambition du recueil, Travail et fatigue, elle se porte vers ce que Pavese nomme un style objectif, doublé de ce qu'il précise encore, je le cite, un certain ton sentimental de virilisme misogyne. Il serait aujourd'hui pendu pour de tels propos. Je cite aussi un extrait des pages théoriques qui figurent dans son court essai « Le métier de poète », un essai qui développe l'idée de ce qu'il nomme une poésie récit, une poésie désireuse de bannir les images. Voici ce qu'il écrit. J'insistais alors sur la sobriété du style, essentiellement par attitude polémique. Il fallait atteindre l'évidence imaginaire en excluant toutes les autres démarches stylistiques, entachées, me semblait-il, de rhétorique. Il fallait que je me prouve qu'une sobre énergie dans la conception entraînait une expression fidèle, immédiate, essentielle. Rien de plus naïf que mon attitude d'alors devant l'image entendu au sens rhétorique. Je n'en voulais pas dans mes poésies et je n'en mettais pas, si ce n'est par erreur. C'était pour sauver la sacro-sainte immédiateté et, en payant de ma personne, pour échapper au lyrisme facile et éculé des faiseurs d'images. Enfin, c'est la fine préface de Dominique Fernandez qui éclaire le sens du titre. Voici ce qu'écrit Dominique Fernandez. Interrogeons-nous d'abord sur le sens de ce titre. Pour Pavese, élevé par une mère seule, porté à d'autant plus de rigueur envers son fils que l'exiguïté de son budget la rend plus austère, l'identification entre la vie et le travail ingrat qui fatigue, c'est-à-dire la mère qui se fatigue au travail, vie égale mère, n'est-elle pas inévitable ? La mort, confondue avec l'image du père disparu et regretté, étincelle dans la nuit comme une étoile magique. Ce n'est pas tant travailler qui fatigue que vivre, vivre, quelle usure inutile. La seule manière d'exister qui ne soit pas absurde est d'attendre la mort. La colline, la rue ou la fenêtre sont les figures de cette expectative. En face d'une colline, au bout d'une rue, devant une fenêtre, le poète suspend son souffle et attend. La poésie est le lieu de l'attente, rien d'autre que ce lieu. Ce sont aussi les derniers vers du poème « Ancêtre » qui éclaire le titre « Travailler, fatigue ». Les voici. J'ai trouvé une terre en trouvant des compagnons. Une terre mauvaise, où c'est un privilège de ne pas travailler en pensant à l'avenir. Car rien que le travail ne suffit ni à moi ni au mien. Nous savons nous tuer à la tâche, mais le rêve de mes pères, le plus beau, fut toujours de vivre sans rien faire. Nous sommes nés pour errer au hasard des collines, sans femme, et garder nos mains derrière le dos. Voici donc tout d'abord le poème éponyme du recueil « Travailler, fatigue ». Traverser une rue pour s'enfuir de chez soi, seul un enfant le fait. Mais cet homme qui erre tout le jour par les rues, ce n'est plus un enfant et il ne s'enfuit pas de chez lui. En été, il y a certains après-midi où les places elles-mêmes sont vides, offertes au soleil qui est près du déclin. Et cet homme qui vient le long d'une avenue aux arbres inutiles s'arrête. Est-ce la peine d'être seul pour être toujours plus seul? On a beau y errer, les places et les rues sont désertes. Il faudrait arrêter une femme, lui parler, la convaincre de vivre tous les deux. Autrement, on se parle tout seul. C'est pour ça que parfois, il y a des ivrognes nocturnes qui viennent vous aborder et vous racontent les projets de toute une existence. Ce n'est sans doute pas en attendant sur la place déserte qu'on rencontre quelqu'un. Mais si on erre dans les rues, on s'arrête parfois. S'ils étaient deux, simplement pour marcher dans les rues, le foyer serait là où serait cette femme et ça vaudrait la peine. La place dans la nuit redevient déserte et cet homme qui passe ne voit pas les maisons entre les lumières inutiles, il ne lève plus les yeux. Il sent seulement le pavé composé d'autres hommes aux mains dures et calleuses comme les siennes. Ce n'est pas juste de rester sur la place déserte. Il y a certainement dans la rue une femme qui, si on l'en priait, donnerait volontiers un foyer.
Traversare una strada per scappare di casa lo fa solo un ragazzo, ma quest'uomo che gira tutto il giorno le strade non è più un ragazzo e non scappa di casa. Ci sono d'estate e pomeriggi che fino alle piazze son vuote, distese sotto il sole che sta per calare. E quest'uomo, che giunge per un viale di inutili piante, si ferma. Val la pena essere solo, per essere sempre più solo. Solamente girarle le piazze e le strade sono vuote. Bisogna fermare una donna e parlarle e deciderla a vivere insieme. Altrimenti uno parla da solo. È per questo che a volte c'è lo sbronzo notturno che attacca discorsi e racconta i progetti di tutta la vita. Non è certo attendendo nella piazza deserta che si incontra qualcuno. Ma chi gira le strade si sofferma ogni tanto. Se fossero in due, anche andando per strada, la casa sarebbe dove c'è quella donna e varrebbe la pena. Nella notte la piazza ritorna deserta e quest'uomo che passa non vede le case tra le inutili luci, non leva più gli occhi. Sente solo il selciato che han fatto altri uomini dalle mani indurite come sono le sue. Non è giusto restare sulla piazza deserta. Ci sarà certamente quella donna per strada che pregata vorrebbe dar mano alla casa.
La notte, la nuit, mais la nuit houleuse, la nuit transparente que le souvenir ne faisait qu'effleurer est bien loin. C'est un souvenir. Un calme persiste, stupéfait, fait aussi de feuilles et de néant. Seul reste de ce temps au-delà des souvenirs, une quête incertaine du souvenir. Parfois, revient au jour, dans la lumière immobile du jour d'été, cette stupeur lointaine. Par la fenêtre vide, l'enfant regardait la nuit sur les collines fraîches et noires, stupéfait de les voir amassées. Immobilité, vague et limpide. Au milieu du feuillage qui bruissait dans le noir, se montraient les collines où les choses du jour, versant arbres et vignes, étaient nettes et mortes, et la vie était autre, faite de vent, de ciel, de feuilles et de néant. Parfois, dans le calme immobile du jour, revient le souvenir de cette vie pensive dans la lumière stupéfaite.
Ma la notte ventosa, la limpida notte che il ricordo sfiorava soltanto, è remota, è un ricordo. Perdura una calma stupita, fatta anch'essa di foglie e di nulla. Non resta di quel tempo di là dai ricordi che è un vago ricordare. Talvolta ritorna nel giorno, nell'immobile luce del giorno d'estate, quel remoto stupore. Per la vuota finestra il bambino guardava la notte sui colli, freschi e neri, e stupiva di trovarli ammassati, vaga e limpida immobilità. Fra le foglie che stormivano al buio apparivano i colli dove tutte le cose del giorno, le coste e le piante e le vigne, erano nitide e morte, e la vita era un'altra, di vento, di cielo e di foglie e di nulla. Talvolta ritorna, nell'immobile calma del giorno, il ricordo di quel vivere assorto, nella luce stupita.
Estate, été. Il est un jardin clair, herbe sèche et lumière, entouré de murets, qui réchauffe sa terre doucement. Lumière qui évoque la mer. Tu respires cette herbe. Tu touches tes cheveux et tu en fais jaillir le souvenir. J'ai vu bien des fruits doux tomber sourdement sur une herbe familière. Ainsi, tressailles-tu toi aussi quand ton sang se convulse. Ta tête se meut comme si tout autour un prodige impalpable avait lieu. Et c'est toi le prodige. Dans tes yeux, dans l'ardent souvenir, la saveur est la même. Tu écoutes. Les mots que tu écoutes t'effleurent à peine. Il y a, sur ton calme visage, une pensée limpide qui suggère à tes épaules la lumière de la mer. Il y a, sur ton visage, un silence qui oppresse le cœur sourdement et distille une douleur antique comme le suc des fruits tombés en ce temps-là.
C'è un giardino chiaro, fra mura basse, di erba secca e di luce, che cuoce adagio la sua terra. È una luce che sa di mare. Tu respiri quell'erba, tocchi i capelli e ne scuoti il ricordo. Ho veduto cadere molti frutti dolci su un'erba che so con un tonfo. Così trasalisci tu pure al sussulto del sangue. Tu muovi il capo come intorno accadesse un prodigio d'aria e il prodigio sei tu. C'è un sapore uguale nei tuoi occhi e nel caldo ricordo. Ascolti. Le parole che ascolti ti toccano appena. Hai nel viso calmo un pensiero chiaro che ti finge alle spalle la luce del mare. Hai nel viso un silenzio che preme il cuore con un tonfo e ne stilla una pena antica come il succo dei frutti caduti allora.
Luna d'agosto, lune d'août. Au-delà des collines jaunes, il y a la mer, au-delà des nuages, mais des journées terribles, de collines qui ondoient et crépitent sous le ciel, séparent de la mer. Ici, sur la hauteur, il y a l'olivier et la mare trop petite pour qu'on puisse s'y voir. Et les chaumes qui jamais ne finissent. Puis, la lune se lève. Le mari est couché dans un champ, le crâne fracassé de soleil. Une épouse ne peut pas traîner un cadavre comme un sac. La lune se lève et projette un peu d'ombre sur les branches crochues. Depuis l'ombre, la femme se met à ricaner, terrifiée, vers la tête massive, pleine d'un sang qui se fige et inonde chaque pli des collines. Le cadavre, couché dans les champs, est immobile comme la femme dans l'ombre. Et pourtant, on dirait que son œil de sang cligne vers quelqu'un et lui montre un chemin. De longs frissons passent sur les collines nues, venues de loin, et la femme les sent dans le dos, comme lorsqu'il courait sur l'océan des blés. Ils envahissent aussi les branches de l'olivier, perdues dans cette mer de lune, et déjà l'on dirait que l'ombre de cet arbre se crispe et l'engloutit elle aussi. Elle bondit au dehors, dans cette horreur lunaire, poursuivie par la brise qui effleure les pierres, par une ombre légère qui s'accroche à ses pieds, par son ventre en douleur. Elle rentre dans l'ombre, accablée, elle se jette sur les pierres, elle se mord la bouche. Sombre sous elle, la terre s'imprègne de sang. Notturno, nocturne. La colline est nocturne, dans le ciel transparent. Ta tête s'y enchasse, elle se meut à peine, compagne de ce ciel. Tu es comme un nuage entrevu dans les branches. Dans tes yeux rit l'étrangeté d'un ciel qui ne t'appartient pas. La colline de terre et de feuillage enferme de sa masse noire ton vivant regard. Ta bouche a le pli d'une cavité douce au milieu des collines lointaines. Tu as l'air de jouer à la grande colline et à la clarté du ciel. Pour me plaire, tu répètes le paysage ancien et tu le rends plus pur. Mais ta vie est ailleurs. Ton tendre sang s'est formé ailleurs. Les mots que tu dis ne trouvent pas d'écho dans l'âpre tristesse de ce ciel. Tu n'es rien qu'un nuage très doux, blanc, qui s'est pris une nuit dans les branches anciennes. Il paradiso sui tetti, le paradis sur les toits. Le jour sera tranquille, froidement lumineux, comme le soleil qui naît ou qui meurt, et la vitre hors du ciel retiendra l'air souillé. On s'éveille un matin, une fois pour toujours, dans la douce chaleur du dernier sommeil. L'ombre sera comme cette douce chaleur. Par la vaste fenêtre, un ciel plus vaste encore remplira la chambre. De l'escalier gravi, une fois pour toujours, ne viendront plus ni voix, ni visage défunt. Il sera inutile de se lever du lit. Seule l'aube entrera dans la chambre déserte. La fenêtre suffira à vêtir chaque chose d'une clarté tranquille, une lumière presque. Elle posera une ombre décharnée sur le visage étendu. Les souvenirs seront des nœuds d'ombre tapis comme de vieilles braises dans la cheminée. Le souvenir sera la flamme qui mordait hier encore dans le regard éteint. Les poèmes qui ont été lus en italien ont été d'abord Lavorare stanca, avec la voix de Franco Spinelli, puis La notte, avec celle de Fabrizio Guerini, et le poème Estate, avec la voix de Sergio Carlacchiari. Enfin, vous avez pu entendre un des plus beaux poèmes de Debussy, tiré des préludes, poème musical, je veux dire, intitulé Un canope, le canope étant ce vase égyptien surmonté, un vase funéraire destiné à recueillir les cendres des morts. Cette émission hebdomadaire est diffusée en direct les mardis de 10h à 10h30 et rediffusée les vendredis de 13h30 à 14h. Vous pouvez aussi l'écouter, la réécouter en podcast, comme toutes les autres émissions des RLP.